Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Et puis, vous verrez qu'au cours des prochaines heures, les gens vont avoir tendance à rester chez eux. C'est une bonne chose. Ça a été pas si mal ce matin sur le réseau autoroutier. Beaucoup de gens ont décidé de rester à la maison en prévision de cette tempête qui va nous tomber dessus. Mais il semble que le ministère des Transports soit prêt. Au niveau de la météo, ça reste stationnaire. On parle toujours d'un 30 cm au moins là, de précipitations, de neige qui vont nous tomber dessus. Donc, sortez les pelles, préparez-vous. Mais c'est le fun, la neige. Moi, j'aime ça. Je trouve que ça met de la joie dans nos cœurs. En attendant, nous allons passer la matinée ensemble. On a beaucoup de choses à discuter avec vous. On va parler de la consommation de cannabis qui est en hausse au Québec. Je vais vous demander si vous avez été tenté de l'essayer. Je recevrai également la chanteuse Nathalie Simard qui va nous parler de sa dernière trilogie, un album, un livre, une tournée de spectacles, conférences. Puis on reviendra, bien sûr, sur tous les cas de victimes d'agressions sexuelles puisqu'elle a décidé de vraiment se mettre un peu comme porte-parole de toutes ces victimes encore malheureusement trop silencieuses. Mais d'abord, en première heure d'émission, je voudrais revenir avec vous parce que vous avez été nombreux à m'écrire là-dessus sur les sentences qui sont données en ce moment par nos cours de justice. Les sentences, on pense bien sûr à celle d'Alexandre Bissonnette la semaine dernière. Qui sont, selon les personnes, selon à qui on parle, selon qu'on parle à des groupes de victimes, selon qu'on parle à des procureurs de la Couronne ou de la Défense, qui sont peut-être pas jugés toutes équitables. On sait qu'au même temps où Alexandre Bissonnette était jugé, il y avait également en cours, en Ontario, un autre jugement qui était rendu. Et là, on a eu deux cas complètement différent en matière de jugement, de juridiction, parce que on l'a vu, il y a dans un cas en Ontario, Bruce MacArthur, qui va purger une peine de 25 ans ferme pour avoir assassiné et démembré 8 hommes de la communauté gay de Toronto. En fait, MacArthur, faut préciser, il a été jugé pour 2 de ces 8 crimes, c'est sans doute ce qui explique en partie le 25 ans, mais tout de même, on sait qu'il a tué quand même 8 personnes, alors que dans le jugement du juge François Huot, ici, Alexandre Bissonnette, l'auteur de la tuerie à la mosquée de Québec, lui va devoir rester 40 ans derrière les barreaux pour avoir tué donc 6 personnes de confession musulmane. 2 communautés ciblées, 2 communautés attaquées, des victimes qui, dans les deux cas, ne sont pas forcément satisfaites. On a entendu beaucoup la communauté musulmane nous dire que 150 ans, pour elle, c'était le minimum. Les parents qui, encore aujourd'hui, dans les journaux, là, ils l'ont dit hier, ils ont écrit une lettre pour dire à quel point ils étaient étonnés et qu'ils trouvaient que c'était sévère comme sentence à leur fils, 40 ans. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Évidemment, là, on souhaitait en parler parce que la poussière est légèrement retombée un peu là-dessus. Tout le monde a pu un peu y réfléchir. Et c'est de ça dont je veux parler avec vous ce matin. Je vais vous présenter mes invités. Pierre-Hugues Boisvenu est sénateur. Il est avec moi. Merci d'être là, Pierre-Hugues.
Charles, c'est une bonne journée à vous.
Nicole Gibault est juge à la retraite de la Cour du Québec. Nicole, bonjour.
Bonjour, Isabelle.
Alors, bonjour, Nicole.
Bonjour, Pierre.
Je voulais vous entendre là-dessus d'abord. Je le disais, la poussière est retombée. On a vu 40 ans, on a vu ici pour Bissonnette, on a vu 25 ans pour MacArthur en Ontario. Il y a des cas, il y a un cas entre autres qui sort dans les journaux aujourd'hui où on rappelle l'histoire de Ghislain Abel qui a commis un crime de compassion. C'est comme ça que le juge Asselin de la Cour du Québec l'a nommé, un crime de compassion qui va lui valoir une peine discontinue de 90 jours et non pas d'emprisonnement. Il faut que je précise ici à mes auditeurs, évidemment, Ghislain Abel a tenté d'étouffer son père avec une couverture alors que son père était malade à l'hôpital en fin de vie. Mais finalement, le père n'est pas mort de ce geste-là. Il est mort dans les jours qui ont suivi. Donc, ici, ce n'est pas un meurtre premier degré ou ni prémédité. C'est vraiment une tentative de meurtre. Le juge a considéré que c'était un crime de compassion. Je trouve ça intéressant de mettre ça dans notre discussion aujourd'hui, tous les deux. Pierre-Hugues Boisvenu, Nicole Gibault, j'aimerais vous entendre sur le contexte actuel qui nous mène. Hey, on va essayer de répondre un peu à cette question. Est-ce que les sentences qui sont données sont équitables, Pierre-Hugues Boisvenu? Vous, c'est votre croisade depuis plusieurs années.
Oui, je vais quand même distinguer qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière avec le cas Bissonnette. Et j'ai pris aussi le week-end pour y réfléchir beaucoup. J'ai écouté beaucoup d'entrevues de Nicole, qui est une très grande sage pour moi. C'est une référence. J'ai eu des entretiens avec des juristes en la matière. Et il faut dire que cette sentence-là, c'est la plus sévère qui a été donnée au Québec. Et je pense qu'elle correspond à la réalité actuelle. Tout le débat autour du travail du juge à réécrire le code criminel et interpréter la, la notion de peine consécutive dans le cas de meurtre au premier degré. Ça, pour moi, c'est un autre débat. Il va falloir éventuellement y revenir. J'écoutais Nicole dans une entrevue qui disait elle espère que ces causes-là aillent jusqu'en cours supérieure, c'est-à-dire à Cour suprême, pour qu'elle donne des guides aux juges, qu'elle donne des guides aux législateurs pour reformater le code criminel à ce niveau-là. Je pense que le juge a crédité la thèse de la peine consécutive, que tuer deux personnes ou trois personnes, c'est plus grave qu'une, et il faut que la sentence soit...
Mais ça ne mérite pas 150 ans.
Ça ne mérite pas 150
c'est
ans.
C'est pas 25 par personne.
Il faut qu'il y ait un réalisme dans la sentence judiciaire.
Ouais.
Donc, je pense qu'il
faut... Mais vous, 40 ans, vous dites que c'est correct pour vous. 40 ans pour Bissonnette, c'est juste et équitable.
Écoutez, j'en ai 70 aujourd'hui, c'est mon anniversaire.
Aujourd'hui? Ben, aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Pierre-Hugues.
Et je me dis, avoir passé de 30 ans à 70 ans en prison, j'aurais trouvé le temps long et je suis pas sûr que j'aurais traversé ces 40 ans-là.
Mais Pierre-Hugues, bon. C'est ça l'idée.
C'est
que le temps soit long.
C'est évident.
D'où l'expression « faire son temps ». C'est sûr que c'est long. Là. Puis il faut que ça soit long et pénible, non? N'est-ce pas?
C'est parfait.
Ouais.
Mais il faut que la façon que les juges vont l'interpréter, il ne faut pas qu'à chaque fois, les familles qui vont vivre ce genre de procès-là se demandent comment ça va aboutir à la fin. Je me mets à la place aujourd'hui des familles là, qui ont été assassinées par MacArthur, là, qui sortent de là dévastées parce que, à mon avis, la sentence de 25 ans à MacArthur n'est pas assez sévère, alors que celle par rapport à Bissonnette m'apparaît réaliste. Je ne parle pas de sévérité, je parle de réalisme en termes judiciaires. Maintenant, il faut refaire le débat à ce niveau-là, parce que moi, je vais me battre bec et ongle pour dire que tuer cinq personnes et en tuer une, c'est pas la même gravité et il faut que la sentence soit conséquente à ça.
Ouais.
Mais par contre, entre ça et 200 ans, je pense qu'il faut ici là faire preuve de réalisme.
Nicole Gibault, là-dessus?
En partant, là, Isabelle, je veux juste dire une chose. On entend tout le temps depuis, entre autres, depuis Bissonnette, depuis la sentence en Bissonnette et etc., une sentence de 40 ans, une sentence de 25 ans, une sentence de 75 ans. C'est absolument pas le cas. Je sais que c'est rhétorique. Je sais qu'on va me dire, ben oui, on le sait, on le sait. Non, on le sait pas assez. C'est une sentence à vie. C'est quoi qui est plus long que la vie? Je ne sais pas, mais à mon avis... là,
la mort. La mort, ben, c'est long, il paraît.
Alors, à vie, ça veut dire que c'est ta vie. Ce qui est en cause, et ce qui a fait jaser le juge Huot et qui fait jaser tous les juges. Et là, moi, j'ai fait un petit calcul rapide ce matin. J'ai peut-être prononcé entre 1000 et 2000 sentences dans ma vie en 23 ans, de toute nature. Là, je parle pas là, de meurtre, c'est pas ça que je dis. Là. Mais à chaque fois, il a fallu que je me penche, à chaque fois les juges se penchent sur pas juste le crime. C'est pas vrai, à mon avis, qu'il faut dire, bon, un crime, un individu, une personne de la communauté gay, c'est 20, premièrement, c'est pas 25 ans. Une autre personne, c'est un autre. On doit multiplier le nombre le nombre de morts par le nombre de numéros. Ça, c'est mathématique et à mon avis, et Dieu merci que le juge Huot s'est prononcé là-dessus. Et je vais vous dire juste quelque chose. C'est le chemin qu'il a pris. Je le discute même pas parce que c'est vrai que je souhaite que ça soit tranché, pas parce que j'ai pas de respect pour le juge Huot, au contraire. Puis c'est un long jugement étoffé, puis bien écrit. Mais permettez-moi de vous dire que j'aimerais bien que la Cour suprême se penche là-dessus, parce que ça fait depuis 2011, j'étais sur le banc qu'on s'arrache les cheveux littéralement dans des dossiers parce qu'on sentence un individu pour des crimes. Oui, c'est vrai que quatre meurtres, objectivement parlant, c'est bien pire que un. Sauf qu'on sentence un individu. Qui est-on, nous, pour dire que 28 et 3 quarts, c'est mieux que 40 ou 39 et demi ou 32?
Ben nous, Nicole, pour répondre
envoyé,
à ça...
Isabelle, juste une seconde. Ouais, le message qui est envoyé, c'est sûr qu'il faut effectivement prendre en considération les meurtres multiples. Mais s'il vous plaît, arrête. La vie, c'est assez? Est-ce qu'on peut dire que l'individu a une sentence à vie avant tout et qu'il pourra s'adresser aux libérations conditionnelles, qui est un organisme, à ce que je sache, compétent?
Mmh.
Et deuxièmement, est-ce qu'on peut dire que cette personne-là va être évaluée au fur et à mesure? Est-ce qu'on peut dire ceci? Est-ce qu'on peut dire que Bernardo, il est en dedans encore? que Olson l'a jamais eu, que Picton ne l'aura jamais. Alors, on peut-tu dire que c'est à vie?
Oui. En même temps, ce que j'allais dire, Nicole Gibeault, c'est que quand vous dites « qui sommes-nous pour juger de tout ça? » Bien, nous, le public, les citoyens, peut-être qu'on n'est pas habilités, c'est pour ça qu'on en discute ce matin ensemble, pour se faire une idée aussi. Mais les juges, eux, on s'attend à ce qu'ils soient compétents là-dessus. Puis moi, ce que j'ai compris de la sentence du juge François Huot, avec son 40 ans, c'est que sciemment, il voulait que ça aille en Cour suprême.
Ben, c'est peut-être une façon de le voir, là. Je sais pas.
Moi, je me suis dit, c'est un message qu'il envoie. Lui, le 50, ça fait pas son affaire, donc.
Surtout qu'il déclare inconstitutionnel. Lorsqu'on entend le mot inconstitutionnel, mais il l'a pas déclaré inopérant. C'est ça, le chemin qui est différent. Quand on déclare une loi inconstitutionnelle, et inopérante, là, le législateur doit refaire ses devoirs. Ici, il l'a déclaré inconstitutionnel, mais, virgule, il a décidé de réécrire et d'ajouter une partie. Pourquoi? Parce que, comme je vous dis, les principes, les objectifs et tout ça pour les magistrats, c'est d'une importance capitale. J'ai eu à sentencer des gens, puis là, je le souligne, là, où jamais de la vie j'aurais pensé d'imposer ce genre de sentence si on m'avait laissé la discrétion de le faire, parce qu'il y avait tellement de facteurs que j'aurais aimé que le public connaisse dans certains dossiers, puis tout le monde aurait dit « Ah oui, c'est vrai, ça n'a pas de bon sens. » Sauf qu'on a les mains liées quand on a des lois comme ça. Et c'est ça qui a décrié haut et fort quand il a dit « C'est absurde. » 30 000 ans aux États-Unis, je viens de lire ça ce matin, on a déjà donné ça en 1994, 200, 300, 14 000 ans, ça n'a pas de bon sens, on ne veut pas vivre aux États-Unis, on ne veut pas ce principe-là, puis c'est pas vrai qu'une vie vaut un chiffre, 25. Ah, il y en a 10 à Toronto qui s'en vient, là, parce qu'ils ont été fauchés par un monsieur, là. Ah, ben là, c'est automatique, on va penser, ça n'a aucun sens. Merci au juge Huot d'avoir souligné l'absurdité de ce texte de loi qui enlevait toute discrétion. Qu'on mette 40 pour Bissonnette ou 25 dans le cas de M. MacArthur, c'est 25, c'est à vie toujours, mais M. MacArthur va avoir 91 ans, peut-être que on n'a pas le même espoir de réhabilitation, surtout pas pour un tueur en série
Est-ce qu'on peut le dire, Nicole, que ça n'a juste pas de bon sens si on compare les deux?
On compare les chiffres, Isabelle.
Mais pas juste les chiffres. La façon dont les criminels, on regarde quand même la preuve.
Pensez-vous réellement que MacArthur, quand même, qu'il aurait eu, quand même qu'on l'aurait sorti dans 3 ans, ce qui n'est pas le cas, c'est impossible, là. Pensez-vous vraiment que les libérations conditionnelles l'auraient relâché, ce genre de tueur en série?
Bon, on a déjà vu des cas. Peut-être pas. Sur des prédateurs sexuels, là, je veux dire, Pierre-Yves Boisvenu pourrait en parler longuement. Des fois, on se demande ce qui a amené le petit Livernoche. Enfin, il y a des histoires épouvantables.
Le meurtrier de ma fille. Regardez seulement le cas de l'assassin de ma fille, où il agresse sexuellement une femme en 2000 en Gaspésie, et il y a deux sentences, une de 18 mois pour l'agression sexuelle, une de 18 mois pour la séquestration, et le juge, dans sa bonté, lui dit « Oui, mais tes deux sentences, tu vas les faire en même temps. » Donc, ce qui lui donne 18 mois, et comme il est dans une prison provinciale où on libère encore un sixième, il en fait seulement que 3. Donc, il a fait 3 mois, c'est une sentence de 36 mois. Alors que s'il y aurait eu 36 mois, il aurait été dans un pénitencier fédéraux avec des services. Alors que là, se ramassant dans une prison provinciale, il n'y a aucun service. Voilà la raison pourquoi il a récidivé. Donc, moi, je reviens à l'ensemble des sentences, parce que les cas de meurtre au Canada, c'est 1% des causes d'un palais de justice. 99%, c'est d'autres types de causes, donc l'alcool au volant, agression sexuelle chez les enfants, de plus en plus les gangs de rue avec la prostitution juvénile. Et là, vraiment, le code criminel, il faut qu'il soit revu pour donner des sentences beaucoup plus sévères. Je pense, entre autres, à la loi 452 qu'on a adoptée en 2015, Nicole. Ça fait 3 ans qu'on attend, que les policiers attendent qu'on applique pour les proxénètes des sentences consécutives en fonction du nombre de jeunes filles qui sont dans le réseau, le délai que se sont prostituées et les séquestres que ces jeunes filles-là sortent de ces réseaux-là. Mais ça fait 3 ans qu'on attend que le gouvernement mette en force ce projet de loi-là. Et encore aujourd'hui, j'écoutais le provincial, on va documenter la prostitution juvénile. Voyons donc.
Pierre-Hugues, ce que vous dites, dans le fond, là, c'est que ça prend aux tribunaux une ligne directive parce qu'ils sont pas capables de faire leur job.
Ou du jugement.
Parce qu'ils sont pas capables d'avoir assez de jugement. Et on ne croit pas que les juges de première instance ont assez de jugement pour les rendre, ces sentences-là, de façon consécutive, s'il y a lieu. Puis, on ne croit pas non plus, ou on oublie nettement qu'on a des cours d'appel et qu'on a une Cour suprême. Alors, on dit, quand ils comprennent pas ces juges-là de première instance, on leur met des balises du minimum.
Mais lorsqu'on le fait,
Nicole... Ça va faire l'affaire de tout le monde. Parce que chaque cas est très différent. Et ce que j'essaie de vous dire, c'est que j'ai déjà eu des gens en agression, qui ont fait des agressions sexuelles qui méritaient la vie. Et j'ai eu des gens qui ont commis des agressions sexuelles. On parle pas du crime, là. On parle de l'individu qui méritait réellement d'être encadré avec une chance parce que j'avais compris pourquoi je veux aller. C'est épouvantable. Vous avez pas idée ce que j'avais entendu du passé de cette personne-là qui avait complètement détraqué pour des raisons bien évidentes. Mais chaque cas étant un cas d'espèce, c'est pas vrai que le législateur a une obligation de donner aux tribunaux. Voici, vous êtes pas capable de le faire, vous autres, alors on va vous l'imposer du minimum parce que vous êtes pas assez capable de donner des sentences sévères. Et oui, je comprends que plusieurs sentences bonbons qu'on appelle, et oui, je comprends qu'on devrait être plus sévère, mais il y a place à amélioration, pas nécessairement à lier les mains. Faites donc confiance. Le juge Huot, là, il y a plein de monde qui sont contents de sa décision. Et il y a plein de monde qui sont d'accord avec sa décision. Il y avait les mains attachées, puis il a été obligé de les délier à coups de petits couteaux tranquillement pendant 247 pages, puis 6 heures à attendre pour avoir la décision. Quel supplice pour avoir, parce qu'il y avait les mains liées. Ah, c'est ce que je dis, moi. Arrêtez d'attacher les mains à ces
Mais ça se peut que ça aille en appel, en plus. Il reste...
Tant mieux, j'espère que ça va aller jusqu'à la Cour suprême.
C'est ce que nous allons voir. En attendant, on va s'arrêter ici. Très courte pause. On va prendre les commentaires de nos auditeurs là-dessus. On se demande ce matin si les sentences qui sont données aux criminels sont équitables à vos yeux. Vous pouvez nous le dire au 514-790-9850, sans frais partout au Québec. Vous nous joignez via le 1-866-790-9850. Est-ce que vous estimez que les sentences qui sont données par les juges en ce moment, donc ça touche vraiment notre système pénal, ces sentences données aux criminels, aux meurtriers, donc on parle de gens qui ont enlevé la vie, est-ce qu'elles vous paraissent équitables? On fait référence à celle qui a été donnée à Alexandre Bissonnette, l'auteur de la tuerie à la mosquée de Québec, qui va rester 40 ans derrière les barreaux. Les victimes entre autres, et certaines autres personnes demandaient jusqu'à 150 ans. En même temps, en Ontario, Bruce MacArthur, qui est un psychopathe fini, là, il s'est attaqué à 8 gays de la communauté torontoise. Il les a torturés, dépecés. Enfin, je vous épargne les détails. Il a dispersé leur corps ici et là. Je veux dire, c'est épouvantable ce qu'il a fait. Lui a eu 25 ans. L'âge est différent. Est-ce que l'âge doit être considéré? Il y a tout ça que je mets en lumière pour vous. Patrick, vous voyez ça comment, vous, aujourd'hui? Patrick, êtes-vous là? Oui, êtes-vous là? On vous écoute, Patrick. Bon, on va passer à quelqu'un d'autre parce que Patrick n'est pas là, visiblement. Patrick,
ben
êtes-vous
oui, là?
Oui, on vous, allez-y, parlez, Patrick.
Oui.
OK.
Oui, je veux juste mentionner que bravo, M. Boisvenu, pour le combat que vous menez.
Merci.
Et puis, juste mentionner que c'est une bonne sentence pour M. Bissonnette, 40 ans. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on est dans une société de réhabilitation. Puis si on se souvient du cas de Denis Lortie en 81, qui est rentré avec sa mitraillette au Parlement, ce monsieur-là, il a eu 25 ans, il a eu des soins à l'intérieur, puis aujourd'hui, il mène une bonne vie à Gatineau sous un autre nom. Donc, à quelque part, la réhabilitation a fonctionné pour plusieurs personnes qui ont vécu des cas similaires à Bissonnette. Donc, 40 ans, c'est une bonne sentence, mais aussi la réhabilitation, qu'est-ce qu'on en fait?
C'est une question que vous posez? Pierre-Hugues Boisvenu.
Et voilà tout le dilemme de notre système carcéral canadien où on gère des prisons, des sentences de moins de 2 ans, où il n'y a aucun programme de réhabilitation, alors que l'ensemble des pénitenciers fédéraux y ont des bons programmes de réhabilitation. Donc, moi, je trouve qu'on est dans une contradiction énorme au Canada et au Québec en particulier, où 56 % des gens qui vont dans les prisons au Québec reviennent en prison parce qu'on n'a aucune mesure de réhabilitation. Ça, je trouve ça inhumain. On devrait avoir des sentences plus longues pour que les gens se ramassent dans les pénitenciers fédéraux. Et là, on va leur donner des services. Et là, possiblement qu'ils ne reviendront pas. Ce ne sera pas des portes tournantes, comme disait Yves Thériault. Donc, oui, il faut croire dans la réhabilitation, mais la façon qu'on incarcère les gens au Québec dans les prisons, on n'y croit pas, parce qu'il n'y a aucune mesure de réhabilitation dans les prisons, et il y a 4 fois plus de prédateurs sexuels dans les prisons en comparaison aux pénitenciers, parce que souvent, les sentences sont moins de 2 ans. Donc, si on veut vraiment, au Canada, bien gérer la réhabilitation, donnons des sentences de plus de 2 ans, et que ce soit le fédéral qui s'en occupe.
Oui, mais je ne peux pas m'empêcher de vous demander, Pierre-Hugues Boisvenu, vous êtes sénateur conservateur, on a beaucoup soulevé le fait que cette loi là, sur le cumul des peines, c'est une loi qui venait du gouvernement de Stephen Harper à l'époque, où on disait, si tu tues une personne, c'est 25, si t'en tues deux, c'est 50, si t'en tues trois, c'est 75, et comme ça, jusqu'à 150 ans, qui a été demandé pour Alexandre Bissonnette, ce qu'il n'a pas eu visiblement, parce que le juge, on le rappelle, a considéré que c'était complètement absurde, ce cumul de peine. Est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui, puisque vous étiez en faveur de cette décision oui. des conservateurs, vous reconnaissez aujourd'hui que ça n'a juste pas de bon sens?
Sur le principe, ça a du bon sens. Sur l'application, ça mérite une correction. Mais sur le principe d'avoir des sentences plus longues lorsqu'on assassine plus que 2 personnes...
Mais c'est un peu bébête oui. de dire t'en as tué un, c'est 25, t'en as tué 4, c'est 100.
Non, bien, on peut donner... Je donne l'exemple de l'alcool
au volant. C'est un peu volant. Premier degré.
L'alcool au volant, le C-46, que oui. les libéraux viennent d'adopter. Lorsque vous allez avoir un accident causant la mort, la première infraction, sentence minimale 1 000 $. Deuxième fois que vous allez tuer quelqu'un, sentence minimale 30 jours de prison. La troisième fois que vous allez tuer quelqu'un avec l'alcool au volant, sentence minimale 3 mois de prison.
Ça n'a pas d'allure.
Ça n'a pas d'allure.
Ouais.
Vous voyez?
Mais donc, dans les crimes qui nous occupent là, ce matin, là,
moi, je le dis
la
encore,
loi conservatrice est à changer complètement.
Elle est à préciser. Parce qu'il faut faire une différence entre une loi qu'on donne dans le code criminel et comment les juges vont l'appliquer.
Ouais.
Tantôt, Nicole le disait, il faut donner des directives aux juges en disant, lorsque vous aurez devant vous un criminel qui a assassiné 3-4 personnes, vous devrez prendre en considération telle chose. Ce que le code criminel n'a pas prévu. Actuellement, ce sont les juges qui vont décider qu'est-ce qu'ils prennent en compte. À Toronto, on prend l'exemple, on dit...
On prend considéré l'âge.
Mais lui qui a eu 50 ans de prison ou 25 ans, il va rester en prison de toute sa vie. De toute façon, il ne sortira jamais de prison. Mais pour les familles qui ont eu 2 sentences de 25 ans, là, eux, ça avait du sens. Ou que ça n'a pas de sens, c'est qu'il y a eu seulement qu'une sentence de 25 ans.
Ouais,
il y a pas
exactement.
Eu de 25
oui.
ans.
Nicole, oui.
Il n'y a pas eu de sentence de 25 ans. Ça n'arrête jamais, 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 jamais. Ce terme-là, ça mérite au plus haut. Tout le monde dit qu'il y a une sentence de 25. Il n'y a pas de sentence de 25, il n'y a pas de sentence de 40. Il peut s'adresser, une possibilité de s'adresser à 40 ans ou à 25, et il peut sortir peut-être après 60 ans s'il réussit à s'en aller jusque-là, M. Bissonnette. L'autre monsieur, s'il réussit à passer à 98 ans, peut-être qu'il sortira même pas. Il n'y a pas de sentence
bon,
de 25
Nicole,
et 40.
Okay. Parlons de sentence d'emprisonnement. Parce que lorsque vous êtes libéré du pénitencier, vous n'êtes plus en prison, vous avez une certaine liberté. Mais pour la majorité des gens qui vont assassiner, comme le taux de récidive est très bas, c'est 3 % 97 % des gens qui vont assassiner quelqu'un vont être libérés après 25 ans pour les meurtres au premier degré.
Mais peut-être
si on parle des meurtres, si on parle des meurtres au deuxième, Nicole, si on parle des meurtres au deuxième...
Peut-être parce que quelqu'un se sont penchés, peut-être la commission des libérations conditionnelles qui a des experts, qui a tout un forum, j'en sais quelque chose pour les libérations conditionnelles, peut-être que c'est parce qu'ils se sont penchés sur chaque cas avec des paramètres, puis peut-être que c'est pour ça. Peut-être que c'est bien trop arbitraire de dire 25, sort dehors. On sort pas à 25. On passe devant la libération. Il y a un comité. C'est pas vrai qu'on sort à 25.
C'est-à-dire 25 ans, c'est comme la notion... Si vous êtes sentencé à vie, sur le plan technique, Nicole, 25 ans, c'est comme une libération d'office. C'est presque automatique si vous avez mené une bonne vie en prison. C'est comme les libérations de tiers. La majorité des criminels sont libérés d'office.
Mais je comprends pas. Juste là-dessus, Nicole, avant qu'on aille à la pause, vous dites il faut arrêter de dire que le gars en Ontario, Marc-Arthur, il a eu 25 ans ferme. Il a eu prison à vie, c'est ça que vous voulez dire?
Bien, tout à fait. Il sortira jamais. Ça n'existe pas, le meurtre. Les meurtres premier et deuxième degré au Canada, c'est automatique une sentence à vie. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, écoutez, étant donné qu'on est un pays et qu'il n'y a plus de peine de mort, on n'en veut pas de peine de mort, donc on va donner une balise en disant, bon, on a donné un chiffre, ça aurait pu être 28, ça aurait pu être 24, 22, 23, mais il y a une longue, longue étude historique là-dessus, depuis la peine de mort, et je viens de la famille un des derniers qui a imposé la peine de mort comme juge au Québec, là, mon grand-oncle. Alors, j'en ai entendu parler en masse, la peine de mort. Puis, on n'a pas voulu y aller à la peine de mort. On a dit, ben, on va donner une chance. Peut-être que, pour un meurtre premier degré, on va dire que cette personne-là pourrait s'adresser. On verra son comportement. Oui, son comportement en dedans est important, mais le critère le plus important, c'est la sécurité du public. Alors, comment il a été gentil pendant 25 ans, assis toute seule dans sa cellule, s'il représente un danger pour la société, comment il aurait fait des gâteaux pour tout le monde, il ne sortira pas. Parce que s'il représente un danger pour la société, c'est des comités qui se penchent là-dessus, c'est des experts qui se penchent là-dessus. C'est pas juste un chiffre jeté at large comme ça, là. Donc, c'est ça que je trouve important. C'est des sentences à vie pour MacArthur, à vie pour Bissonnette.
On revient tout de suite après ceci avec les commentaires des auditeurs. Mais il y a Yves qui m'écrit tout à l'heure, Nicole Gibault disait, il faut arrêter de dire 25 ans, on parle de prison à vie. Yves dit, ben oui, la prison, c'est-à-dire la sentence à vie, on l'a nous aussi, puisque comme contribuables et même les victimes, on doit contribuer et c'est une espèce de sentence financière à vie qu'on doit tous payer pour quelqu'un qui a commis des crimes à 100-120 000 $ par année au fédéral dans une prison. Ça fait beaucoup de millions à la fin. Et Pierre-Hugues Boisvenu, vous aviez déjà eu une opinion là-dessus qui avait fait beaucoup jaser à l'époque. Vous en souvenez?
Faut pas la répéter.
Non, mais vous aviez dit... Non, faut pas la répéter du tout. Vous voulez pas aller là?
Faut pas aller là.
Mais des fois, il y en a
en
qui...
En politique, il y a des choses qui sont bonnes à dire, mais des choses sont bonnes à retenir.
Mais vous mettiez en lumière, je peux vous citer, oui. Parce que c'est de... oui. Bon, ça a été documenté, vous aviez dit...
On parlait de Pinkton et Olson, entre autres.
Voilà, on parlait de gens comme MacArthur, là, qui sont des tueurs en série, des psychopathes, des gens qui coupent du monde en morceaux, là. Ça n'a pas de bon sens. Et vous disiez peut-être que pour ces gens-là, spécifiquement, il y a des méthodes moins coûteuses.
C'est-à-dire, ils devraient eux-mêmes décider. Un peu comme quelqu'un qui dit, moi, j'ai une sentence, je vais mourir en prison. Même peut-être quelqu'un qui a l'Alzheimer ou qui a une maladie très, très sérieuse, dégénératrice, on va lui offrir l'aide à mourir. Bien, quelqu'un qui est en prison, est-ce que cette personne-là devrait avoir le libre choix? C'est ça que je disais à l'époque à peu près. Mais là, à ce moment-là, il y avait une tolée de protestations comme quoi je n'étais pas le suicide, etc. Alors qu'aujourd'hui, l'aide médicale à mourir, c'est quelque chose qui est entré dans nos mœurs.
Mais là, ce que vous suggériez, c'était que le criminel lui-même s'éjecte de la vie.
Qui décide.
Qui accepte, par exemple, d'avoir une injection létale.
S'il a passé 40, 50 ans en prison et que ce n'est pas son choix, moi, je me dis, on devrait lui laisser cette liberté-là, tout simplement. Ouais.
On a Jean au bout du fil. Bonjour, Jean. Votre opinion là, sur les sentences données aux criminels, est-ce que ça vous paraît équitable?
Oui. Moi, je pense que la sentence que M. Bissonnette a reçue du juge Huot, c'est équitable. Mm-hmm. Et puis, j'ai quatre petits points, puis j'aimerais avoir le commentaire de Mme Gibault.
Oui.
OK. Moi, ce que j'ai retenu dans tout cette saga-là, j'ai lu dans le journal, comme tout le monde, et puis, je pense qu'on va remercier le juge Huot à un moment donné. Parce que, on a dit tantôt, la loi de M. Harper, qui est la loi, je ne me rappelle pas, 59, il semblerait que même des juges ne voulaient pas justement appliquer cette loi-là. Et deuxièmement, moi, ce que j'ai retenu dans le jugement de M. Huot, il a prononcé un mot anticonstitutionnel.
Oui. Ben Nicole Gibault en parlait tout à l'heure, justement. Nicole, rapidement là-dessus, à nouveau, pour ceux qui...
Oui, c'est tout à fait exact que les juges ne voulaient pas. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs. On a eu une sentence dans le dossier de Ramsurum pour 3 meurtres où on a demandé des peines consécutives. Le juge a fait un long jugement. C'est non. Il y en a une dizaine, peut-être 6, 7, 8, où les juges ont dit non. Absolument pas, on les donnera pas consécutives. C'est pas vrai qu'on va aller là. Et oui, monsieur, le juge Huot a dit qu'elle était inconstitutionnelle. Mm-hmm. Il l'a réparée. Il l'a pas déclarée inopérante parce que s'il l'avait déclarée inopérante, il aurait fallu qu'il retourne devant le gouvernement qui aurait dû reformuler. Là, lui, il l'a corrigé lui-même. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit qu'elle était inconstitutionnelle, il l'a corrigé, puis après ça, il a appliqué la sentence en fonction de sa correction.
C'est un peu baveux, finalement, le juge Huot.
c'est quelque chose, c'est ça que je vous dis, que j'ai hâte de voir, parce que ce genre de chemin et de route prise, même si on l'a déjà vu dans d'autres dossiers, mais pas dans le même genre, là, c'est extrêmement extrêmement, c'est exceptionnel, inusité. Alors, c'est pour ça que ça serait intéressant qu'on se prononce là-dessus. Mm. Mais oui, c'est pas, je qualifierais pas de baveux, mais je veux dire que c'est, il y a beaucoup de, comment on dit, de guts, là, de ouais. Enfin, bon, c'est ça. Oui, il y en a eu, mais je suis pas certain. J'ai hâte de voir si ça va tenir la route. On verra.
Merci, Jean, de votre commentaire. Jérôme, bonjour.
Bonjour, madame. Comment allez-vous?
On vous écoute.
Une question complexe. Je suis pas juriste, mais pour votre panel, je voudrais pouvoir amener juste cela rapidement. Dans nos salles de cours, il y a un bonhomme qui s'appelle un juge. Et le code pénal, il est pas automatique. Le juge doit juger non seulement de ce qui s'est passé, non seulement de la personne, mais tout au long de sa peine, ce condamné-là va être rejugé, réévalué. Et c'est ça notre système. Et je ne vois pas pourquoi, comment on peut mélanger le coût de ce que ça va coûter et la peine de mort est enlevée automatiquement, il y avait à quelqu'un. Pinkton, on l'a mentionné tantôt, il en a tué 50. Est-ce qu'il va être tué 50 fois? Ça ramènera personne. Personne. Et ça, c'est un commentaire qu'on entend aussi sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Les musulmans ne se sont pas aidés. Je vois pas du tout pourquoi on peut continuer, comment on peut continuer à taper sur soit un groupe ou soit les femmes de prostituées de Pinkerton ou les femmes autochtones ou n'importe qui, là, Bain et compagnie.
Ouais.
Comment on peut continuer de ne pas se sentir responsable de ce discours-là? Bien sûr, on est coupable, mais il y en a d'autres qui sont responsables et on devrait pouvoir agir ouvertement là, dans ce discours-là, faire cesser ça, parce que ça aide absolument personne. Et ça sert à rien de dire que Bissonnette est plus coupable qu'un tel. Ouais. Non, c'est toute une société qui devrait s'occuper de tous ces
Mais vous pensez que tous les crimes sont égaux, Jérôme?
Oh non, absolument pas, madame. Oh non, non, chaque cas est un cas d'espèce et chaque réhabilitation aussi est un cas d'espèce. C'est le côté humain de notre société de justice. Sinon, ça serait trop facile. Tu fais un tableau, tu dis, tu fais ça, X, t'as Y. Tu fais X, X, t'as Y, Y.
Ben, c'est ce que se tentait de faire le gouvernement conservateur, puis on voit bien aujourd'hui que c'est irrecevable parce que c'est trop, je le disais tout à l'heure, puis c'est corroboré entre autres par Nicole Gibault puis même Pierre-Hugues Boisvenu, qui est pourtant un sénateur conservateur qui à l'époque endossait ça. Mais on comprend bien aujourd'hui que c'est trop premier degré de dire un crime 25, 2, 50, puis le cumul des peines, ça doit être vu absolument. C'est le message du juge Huot. En même temps, d'un point de vue citoyen, moi, je regarde la sentence de MacArthur, 25 ans, nonobstant le fait qu'il y a 67 ans qui devrait permettre, qu'on devrait lui permettre de demander une libération à 92 ans, même si je comprends, Nicole dit il sortira jamais. En attendant, il y a quand même quelque chose qui ressemble à ça, alors que Bissonnette, lui, va faire 40 ans. Et dans les deux cas, je trouve ça intéressant, ces deux cas la même journée, parce que ces deux causes, c'est des crimes complètement différents, mais deux communautés ciblées, mais des crimes de MacArthur qui paraissent absolument monstrueux. Je dis pas que les autres le sont pas, mais il y a le geste aussi, il y a la préméditation.
Isabelle?
Je sais pas, là, quand je regarde ça, je me dis, ben voyons donc, comment peut-on les considérer sur le même plan? Nicole?
Isabelle? D'où la phrase importante du dernier monsieur.
Oui.
Chaque réhabilitation est un cas d'espèce.
Oui.
MacArthur, aucunement réhabilitable, c'est
oui.
clair.
Oui.
Bissonnette avait peut-être, potentiellement, des chances de réhabilitation.
Mais 40 ans de prison, Nicole, ça va pas l'aider à se réhabiliter, 40 ans dedans.
Non, Nicole, je suis pas certaine du tout que cette... je veux pas choquer personne, parce que c'est pas vrai qu'un meurtre vaut 25 d'inadmissibilité, je le répète.
Ouais.
Mais est-ce que M. Bissonnette aurait pu être réhabilité la 28e année, la 32e année? Peut-être que oui. Peut-être que comme...
Est-ce qu'il est réhabilitable? Est-ce qu'il est réhabilitable?
Bon, faudrait qu'on laisse la chance à quelqu'un de l'évaluer, mais là, il n'y a personne qui va avoir la chance de l'évaluer avant 40 ans. M. Lortie l'a eu, cette chance-là. Et oui, c'est vrai que c'est un citoyen accompli. Je peux vous le dire, il est dans ma région, on le connaît. On sait très bien que maintenant, il est un citoyen à part entière. Il a totalement payé. Ça arrive, ça.
Denis Lortie, l'Assemblée nationale, on s'en souvient, ça fait longtemps, là. Je ne sais pas quel âge qu'il y a aujourd'hui, Denis
Lortie. Ben, tu sais, puis il y a pas, on dira pas, on sait qu'il est, qu'il est dans la région, mais évidemment de façon anonyme. Mais tout ce que je veux dire, c'est que oui, il y en a. Bernardo, non. Pinkton, non. Olson, non. MacArthur, non. Peut-être que Bissonnette aurait pu. Et je dis bien peut-être. Je ne veux pas choquer la communauté musulmane. On fait juste parler de chaque réhabilitation est un cas d'espèce.
Tant qu'à ça, Guy Turcotte, 17 ans pour le meurtre de ses enfants, de ses propres...
Oui, ça se peut qu'il soit réhabilitable. Est-ce que ça choque la communauté, les gestes qu'il a commis? Ben voyons donc, c'est évident.
Mais pourquoi 17 dans ce cas-là? Pourquoi pas? Pourquoi on n'a pas demandé 50 dans son cas?
C'est parce que c'est un deuxième degré, premièrement.
Oui, ben,
deuxième
30.
Degré, c'est entre 10 et... Non.
Deux fois 15, non?
Non, la loi n'était pas passée quand les meurtres ont été commis. Oui. La loi d'Harper est en 2011, les meurtres de Guy Turcotte sont en 2009.
C'est vrai. Merci de nous rappeler tout ça, Nicole, parce que c'est toutes des données importantes. On va aller à la pause là-dessus, puis on revient bien sûr avec mes invités et vos commentaires. Il nous reste 5 minutes. On va parler rapidement à vous. Suzanne, bonjour. Votre opinion là, sur les sentences données aux criminels, ça vous paraît équitable?
Moi, qu'est-ce que je veux dire, c'est que dans une sentence, il y a comme deux sentences. Il y a la sentence du crime qui est à vie dans le cas qu'on parle, puis il y a la sentence à l'accusé que le juge donne, qui est la possibilité de libération. Puis ça, je crois que le juge doit avoir toutes les possibilités. Il ne devrait pas être si encadré. Parce que c'est lui seul qui peut juger de l'accusé. Pas les sénateurs, ils ne connaissent pas l'accusé. Mmh. C'est après avoir écouté, étudié le jugement, que là, le juge peut se donner la possibilité de savoir s'il y a possibilité de rétablissement ou pas.
Ouais. Merci.
Je pense qu'il ne devrait pas être encadré. La sentence à vie pour un crime de cette espèce, oui, mais pas la sentence de la possibilité de libération. Ça, c'est juste le juge qui doit juger de ça.
Merci beaucoup, Suzanne. Il y a Francis avec nous. Bonjour, Francis, rapidement, s'il vous plaît.
Bonjour. Si je ne me trompe pas, Alexandre Bissonnette, c'était meurtre premier degré avec préméditation.
Aussi, oui.
L'Ontario aussi.
Oui, en Ontario aussi.
Pour moi, il y a 6 victimes, donc il aurait dû écoper de 6 fois prison à vie ferme, sans possibilité de libération.
Vous étiez donc, pour le 150 ans.
Moi, je suis pour le 150 ans. On s'entend que son geste, c'est un geste islamophobique, là.
OK.
Et dans ce cas-là, oui, il y a d'autres cas, je comprends, c'est du cas par cas. Mais dans son cas, lui, il savait ce qu'il faisait, c'était clair.
Ouais. Mais il y a des gens qui ont dit, justement, vous savez, l'autre communauté, MacArthur, c'est un geste homophobe. D'un côté, il y en a un qui n'aimait pas les musulmans, de l'autre côté, l'autre, il n'aimait pas les gays.
En plus, mais lui, en plus, c'est un tueur en série. Si j'ai bien compris.
Exact.
MacArthur, c'était un tueur en série. Donc, lui, c'est. Je suis pour votre collègue qui suggère qu'on puisse lui offrir la peine de mort à son choix.
Oui, mais c'est pas permis, là, on comprend bien. Merci beaucoup, Francis. Là, évidemment, il y a toutes sortes de voix qui s'élèvent pour dire, là, maintenant, au Québec, parce que quand même, 40 ans, c'est dans les sentences les plus importantes données. Il y a eu, bien sûr, 75 ans qui ont été donnés à la suite du meurtre de 3 policiers de la GRC, on s'en souviendra. Il y a aussi eu un 35 ans qui a été donné. Disons que... Il y en a qui disent que ça risque de faire monter vers le haut certaines sentences. Ça va quand même probablement teinter certains jugements futurs, Nicole Gibault.
Ben, c'est sûr que... oui et non, parce que chaque juge dans son bureau, dans sa salle aujourd'hui, là, au Canada, va décider ce qu'il veut décider. Là. Parce qu'évidemment, on n'a pas de directive claire de la Cour suprême encore sur le cumul des sentences. Alors, il n'y a rien demain matin là, qui va changer. On va avoir encore des 35, on va avoir des 40, des 75. D'où, à mon avis, c'est pour ça que ça fait réagir beaucoup, puis on fait des comparaisons. Ça profite à faire des comparaisons. Un, c'est ci, l'autre, c'est ça. Puis c'est ce que je trouve déplorable, parce qu'on devrait peut-être juste avoir un cas à chaque fois, puis d'en décider à chaque fois.
Mais on ne peut pas empêcher les comparaisons, parce que c'est humain de comparer. Puis il y en a beaucoup qui disent aujourd'hui, ben MacArthur, finalement, il s'en est bien tiré que c'est 25 ans. Est-ce que, justement, considérant la sentence de Bissonnette, Pierre-Hugues Boisvenu, vous me dites que probablement que ça va aller en appel, puis qu'on va s'attendre à une sentence plus sévère, donc pour MacArthur, ça c'est...
C'est la grande contradiction dans ces deux sentences-là, données par deux juges qui ont un peu personnalisé la sentence. Ouais. On dit qu'un individu comme Bissonnette qui est réhabilitable, on lui donne 40 ans, et quelqu'un qui n'est pas réhabilitable, on lui donne 25 ans. Ça, c'est une grande contradiction avec laquelle la Cour suprême devra vivre ou devra trancher.
Et on ne peut pas discriminer un criminel à cause de son âge non plus?
Ben sinon, si tu as 80 ans puis tu tues quelqu'un, je veux dire, tu vas dire, ben regarde, on va te donner juste 5 ans parce que l'espérance de vie, c'est 83 ans.
Ben c'est ça le message qu'on envoie. On dit, si tu veux tuer du monde, attends plus tard, tu vas avoir moins de risques d'aller en dedans longtemps. C'est un peu épouvantable, Nicole. Mais...
Isabelle, oui. Parce que la phrase
10 secondes.
Respecte, ouais. Pierre-Hugues, respecte Pierre-Hugues, c'est le problème, c'est qu'il a personnalisé, c'est pas le problème, c'est la loi de personnaliser et d'individualiser les sentences.
Merci beaucoup à vous deux, c'était passionnant. On reviendra là-dessus, bien sûr. C'est un gros dossier qu'on suit avec beaucoup de passion. On se retrouve après les nouvelles.